Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC.
L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Les roses de Noël, les roses de Noël.
Oui. C'est Claude François, ça ?
Ah ben c'est Clo-Clo, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais alors personne ne connaît cette chanson, je pense. Je pense que là, c'est vraiment la face B de je sais pas quoi. Mais oui, mais Claude François fait beaucoup, beaucoup de chansons.
Peut-être la face C même.
Oui. Et on va parler justement des roses de Noël, d'où ce petit extrait de Clo-Clo et des hélébores, de superbes fleurs pour l'hiver. Peut-être pour commencer, Patrick, qui sont les hélébores et pourquoi nous les présenter en ce moment, tiens ?
Ben, je vous les présente en ce moment parce que on va parler aussi des roses de Noël et que ce sont des plantes qui sont extrêmement faciles à cultiver et qui gagnent à être plantées à l'automne. Parce que s'il y a une chose que l'hélébore ne supporte pas, c'est d'être baladé dans le jardin. Une fois que vous l'aurez installée et qu'elle se plaît, alors je viens de faire une énorme faute de français, que tout le monde fait, hélébore c'est masculin.
Aïe, aïe, aïe. Bon. Patrick, que s'est-il passé ?
Donc une fois qu'il est planté,
et oui.
Mais c'est vrai que c'est difficile de se le mettre dans la tête.
Bah, en plus, ça commence par L, donc ça.
Peut-être que c'est pour ça, mais en tous les cas, c'est masculin. Donc un hélébore, lorsqu'il est planté dans votre jardin, doit rester en place. C'est très casanier. Alors, il y en a 13 espèces, 8 sous-espèces, qui sont validées par les instances botaniques internationales. Ce sont toutes des plantes vivaces, de la famille des renonculacées, donc les renoncules, les aconites, les anémones, les ancolies, tout ça, les clématites même, ce sont leurs cousins.
D'accord.
Et beaucoup d'hélébores se distinguent par leur floraison hivernale.
D'accord. Alors pourquoi aussi vouloir nous parler des roses de Noël dans ce rendez-vous, Patrick ?
Tout simplement parce que la rose de Noël, c'est pas un rosier, c'est un hélébore.
C'est un hélébore.
Qui s'appelle, pour les botanistes, hélébore niger, donc l'hélébore noir.
D'accord. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette rose de Noël et notamment, les raisons de ce nom qui prête à confusion ?
Alors, l'histoire de pourquoi on l'appelle rose de Noël, c'est parce que lorsqu'on regarde les boutons d'un hélébore, alors qu'il soit Helleborus niger ou qu'il soit d'autres hélébores, ça ressemble effectivement à un bouton de rose. Alors, faut quand même être un tout petit peu, poète peut-être pour retrouver ça, mais ça ressemble quand même un peu. Bon, il y a aussi des histoires, notamment une légende qui voudrait que lors de la naissance du Christ, les rois mages sont passés devant une petite bergère qui avait rien à offrir du tout et qui était donc tellement malheureuse de pas avoir de cadeau à offrir qu'elle s'est mise à pleurer et les anges ont transformé ses larmes en une fleur blanche, blanc-rosée, qui fleurit évidemment à Noël.
À Noël, voilà, on est d'accord.
Alors, c'est une plante, notamment donc l'hélébore niger, la rose de Noël, qui est originaire d'Europe centrale. On en trouve de façon sauvage en France, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, elle pousse, cette plante, plutôt dans les bois de feuillus, dans des zones avec du terrain calcaire. Ça, il faut savoir que un des secrets de la réussite de la rose de Noël dans vos jardins, c'est d'avoir un sol plutôt alcalin. Ça, c'est important. Alors, la dimension, c'est une plante qui peut atteindre en moyenne une trentaine de centimètres. Ça peut aller jusqu'à 40 centimètres. Feuillage persistant, avec des fleurs blanches, avec un beau bouquet d'étamines dorées au centre et qui s'épanouit de décembre à mars.
Est-ce que toutes les roses de Noël sont blanches, Patrick ?
Alors, maintenant, au départ, oui. Alors, blanc-rosé, ça peut avoir une petite nuance rosée, mais les horticulteurs, qui sont des gens facétieux et surtout créatifs, ont en permanence hybridé ces plantes et nous obtiennent aujourd'hui des sélections très, 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 très belles, avec des mélanges avec des hélébores orientaux, qui sont notamment donc des plantes avec plus de roses, voire même par exemple du pourpre. Vous avez Early Purple, c'est vraiment carrément pourpre. Et il y a des grandes, il y a des sélections aussi à fleurs doubles, et vous avez aussi des sélections de plus en plus avec des grosses fleurs. Il faut dire qu'il y a encore 4 ou 5 ans, il était quasiment impossible d'avoir en cette saison des hélébores niger, donc des roses de Noël, en pot et en fleurs. il y a eu un travail horticole de fait. Remarquable, incroyable. Qui fait que actuellement, dès maintenant, vous allez dans votre jardinerie, vous allez déjà avoir dépoté de ces plantes-là. Et pendant tout l'hiver, vous pourrez en acheter et vraiment vous faire plaisir. Si vous n'avez pas de jardin, peu importe, vous pouvez aussi l'avoir pendant quelques semaines dans votre maison ou le placer, bien sûr, sur votre balcon.
Alors Patrick, vous nous donnez envie, si au jardin, pour Noël, je veux avoir des fleurs, quelles précautions dois-je prendre dès maintenant ?
Alors, de deux choses, une fois, vous en achetez, vous allez acheter des plantes. Si vous avez déjà planté un hellebore Niger, vous allez vous rendre compte que souvent, il est un peu paresseux. Et pour l'avoir vraiment en fleur à Noël, il faut actuellement mettre une cloche dessus, donc, ou un petit bout de châssis, de manière à ce qu'il soit un peu au chaud et surtout qu'il soit protégé des pluies, car c'est une plante qui est assez sensible aux maladies cryptogamiques. Alors ça se développe sur le feuillage principalement, mais lorsqu'on a beaucoup de pluie, et c'est un peu le cas en ce moment, il y a une, même s'il pleut pas, il y a une très très forte hygrométrie. Vous avez dû remarquer, le matin, il y a de la rosée et tout ça. Et ça, ça favorise le développement d'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea, donc la pourriture grise, qui peut carrément empêcher la plante d'ouvrir son bouton.
Patrick, est-ce que vous pouvez nous donner pour terminer quelques conseils de culture pour bien réussir les hellebores ?
Alors je vous disais, plutôt donc un sol calcaire. Si vous habitez dans une région comme la Bretagne où poussent naturellement les rhododendrons, là il va falloir apporter de la chaux agricole dans votre terre parce que vraiment ils en ont besoin. Ça aime les sols profonds, bien drainés et surtout en été il faut pas mal de fraîcheur, parce que c'est plutôt une plante un peu de sous-bois, et donc mettez un bon paillis au pied, la présence de matière organique étant très 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 favorable. Moi, je le fais au jardin, on a vraiment des très beaux hellebores orientaux, qui sont des plantes plus grandes et qui fleurissent plutôt vers février. Mais c'est des plantes, on se rend compte en été, dès qu'il y a un petit manque d'humidité, vous avez un affaissement, ça tombe comme ça. Donc il faut mettre un bon paillis organique pour maintenir l'humidité, puis surtout bon que la plante ait tout le temps de l'eau pendant l'été, ça c'est important. Ensuite, il y a strictement rien à faire.
On laisse
comme je vous le disais, il faut pas les transplanter, ça n'est pas ça. Donc vous laissez la touffe bien prospérer, ça peut devenir gros. Hein, on peut avoir une touffe qui fait 60-70 cm de diamètre. L'avantage étant que le feuillage est persistant, assez décoratif, c'est très coriace, un vert assez luisant, et avec une floraison qui a une période où normalement il n'y a pas grand-chose. Donc c'est quand même très très avantageux.
Patrick, il faut faire attention quand même, c'est toxique comme plante.
Oui, c'est extrêmement toxique, mais c'est extrêmement toxique que si vous la consommez. Ça agit alors avec des glucosides qui sont l'héléborine et l'héboréine, qui ont des effets vraiment délétères sur le système nerveux et sur le cœur. Donc ce sont des plantes qu'il faut manier quand même avec précaution, du moins quand on a des jeunes enfants. Alors c'est surtout au niveau des racines. Mais bon, franchement, avoir l'idée, même quand on est gamin, de
il faut
manger,
vraiment vouloir.
Parce qu'il faut quand même en manger des feuilles aussi coriaces que les feuilles d'hellebore.
Il faut vraiment avoir faim.
Voilà. Alors, on pourrait effectivement, un tout petit gamin, le mâchouiller et puis avoir des désordres un peu intestinaux. Bon, je sais pas.
Oui. Dites-moi, nos amis corses, visiblement, ont une histoire avec les hellebores depuis très longtemps.
Oui, alors les Corses sont des gens malins. D'abord, ils ont un hellebore à eux. Il faut bien le dire, donc ça c'est quand même un truc qui est pas mal. Ils ont un hellebore à eux qui s'appelle hellebore corsicus, et ils avaient l'habitude, alors je sais pas s'ils le font toujours, mais de tremper les jeunes plants de poireaux dans une décoction d'hellebore qui les protégeait contre la teigne du poireau, le ver du poireau. Et puis, les bergers corses aussi nettoyaient avec une solution d'hellebore, les plaies de leurs animaux qui avaient été attaqués ou qui avaient été blessés de façon à éviter les infections. Donc peut-être qu'il faut s'inspirer des Corses avec l'utilisation de l'hellebore.
Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison, on le voit, quand on l'ingère, c'est toxique, et ça peut être aussi à des doses peut-être infinitésimales.
C'est une plante qui, depuis l'Antiquité, est utilisée à des fins médicinales.
Patrick, on revient dans un instant.